Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité pour la première partie de cette émission, Guillaume Gros, qui publie aux éditions du Cerf les pages ressuscitées de Philippe Ariès. Alors on va beaucoup parler de cet historien, malheureusement trop méconnu qu'est Philippe Ariès. Il nous a quittés en 1984, il y a un peu plus de 40 ans. Philippe Ariès était né à Blois en 1914 et c'est un historien du dimanche, comme il se présentait lui-même. Autrement dit, il n'a pas fait pleinement profession du métier d'historien, nous en reparlerons, mais c'est un historien très important qui s'inscrit dans la filiation de Marc Bloch et Lucien Febvre, les promoteurs de l'école des annales, née à l'Institut d'histoire médiévale de l'université de Strasbourg dans les années 1920. Voilà, j'ai résumé très rapidement le profil de Philippe Ariès. Il y a beaucoup d'autres choses à dire de lui, en particulier qu'il s'est intéressé à plusieurs thématiques essentielles de l'histoire des mentalités. Je pense en particulier au rapport à la mort, mais aussi à l'éducation. Il était aussi très sensible à l'histoire littéraire, comme le prouve le texte sur Alfred de Musset qui ouvre ses pages ressuscitées. Première question, Guillaume Gros, pourquoi n'a-t-il pas fait profession d'historien, lui qui a tenté l'agrégation et qui a enseigné l'histoire dans le cadre d'établissements privés?
Alors effectivement, vous avez raison, il aurait rêvé d'être historien, mais pas seulement historien du dimanche. Il a effectivement échoué à deux reprises à l'agrégation. Le paradoxe est que au moment où finalement il s'affirme peut-être sa première vocation dans le texte qu'il publie, le premier texte publié en 1943, Tradition sociale dans les pays de France, mais c'est l'année où il obtient un poste de directeur dans un centre dédié aux fruits et agrumes coloniaux, sur lesquels d'ailleurs il développera plus tard, tout au long des années 50-60, une expertise dans l'indexation des systèmes informatiques. Donc il a, comme vous l'avez dit, une profession qui n'est pas celle d'historien, mais parallèlement à cette fonction et à ce métier, il passera sa vie finalement en historien du dimanche. C'est l'expression effectivement choisie par Michel Vinoc et dans ses entretiens au début des années 1980. Eh bien, il passera sa vie finalement à faire de l'histoire, qui est sa passion première.
Il finira au soir de sa vie, on est en 1978, 6 ans avant sa mort, par intégrer l'école des hautes études en sciences sociales, et ce grâce à l'intervention de deux historiens remarquables, Pierre Vidal-Naquet et François Furet. Comment explique-t-on cette entrée tardive dans la normalité académique, si vous me permettez cette expression ?
Non, votre expression est bien trouvée. Je pense que c'était comme l'avait dit, je crois, un petit peu Pierre Nora dans le pré-rapport qu'il avait rédigé pour la candidature de Philippe Ariès donc à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est un petit peu un loupé, quoi. Ils sont passés à côté de quelqu'un qu'ils considèrent eux-mêmes comme un génie, finalement. C'est un petit peu ce qui ressort de ce rapport. Un pionnier, comme vous l'avez dit, un pionnier qui a travaillé finalement en dehors des écoles, en dehors des revues universitaires, en dehors de la sociabilité universitaire, et il a construit en s'appropriant les modes d'expression qu'il avait, des revues des revues totalement, je dirais, non universitaires, et profiter de chaque occasion pour faire des petits comptes rendus, rédiger des petits textes qui montrent justement la modernité de cet historien qui finalement a été reconnu en France parce que traduit son, pour son livre « L'enfer et la vie familiale hein, » dès 1961 aux États-Unis où il rencontre un réel succès au point que finalement, au début des années 1970, les éditions du Seuil entreprennent un cycle de réédition et à ce moment-là financeront une partie des travaux sur l'homme devant la mort.
Guillaume Gros, il ira jusqu'à enseigner aux États-Unis, à Baltimore en particulier.
Absolument, à Baltimore, donc au Restaurant Random, un historien moderniste qui est toujours vivant, qui lui effectivement lui a permis à plusieurs reprises de faire des cycles de conférences, une première fois sur l'ego-histoire, et très intéressant parce que finalement, je dirais, c'est Orestre Hanom qui va lui être un facilitateur pour Philippe Ariès. Il lui donne la possibilité de mettre en forme les premiers travaux, les premières études qu'il a réalisées sur la mort. Et finalement, le premier livre qu'il publie sur la mort, hein, les fameux essais sur l'histoire de la mort en Occident, c'est d'abord un livre américain publié hein, aux éditions Johns Hopkins University Press, grâce à l'aide donc d'Orestre Hanom et de son épouse qui a traduit donc les conférences de Philippe Ariès en anglais, et ce livre ensuite, donc pour partie, sera publié un petit peu plus tard en France. Donc on voit vraiment que l'impulsion vient des États-Unis où il trouve véritablement une écoute, un accueil et une légitimité.
Et en 1977, Philippe Ariès publie un ouvrage essentiel, L'homme devant la mort.
Alors, effectivement,
qui relate le rapport de la société et le rapport anthropologique de la personne humaine à la finitude.
Absolument, c'est un livre, je dirais, qui est énorme déjà dans la longueur. Il a été réédité en poche en deux, on va dire, en deux volumes. Effectivement, à cette époque, en 1977, donc il est publié aux éditions du Seuil. Il faut bien voir que c'est l'aboutissement d'une préoccupation qu'il a, on va dire, depuis les années 1950. Donc c'est l'aboutissement de pratiquement 20 ans, de 25 ans de recherche, dans un choix très particulier, puisque, comme il l'a fait pour l'enfant et la vie familiale, il privilégie ce qu'on va appeler les sources iconographiques, parce que son épouse, Primorosa Ariès, qui avait fait des études d'histoire de l'art à Toulouse dans les années 1920, le conduira progressivement à s'intéresser et à privilégier ce type de sources. Et incontestablement, l'homme devant la mort doit beaucoup à ce choix, qui croise également des sources littéraires, des testaments, des sources statistiques. Et c'est vrai que le caractère iconoclaste des sources choisies par Philippe Ariès lui a été parfois reproché hein, par certaines critiques, même si le modèle qu'il a développé, qu'il a mis en place, n'est nullement remis en question dans sa grande majorité.
Alors, on dit souvent que Philippe Ariès, parce qu'il était un peu en marge de la tradition académique, était un historien peut-être trop méconnu en son temps. Mais en 1975, Bernard Pivot lui consacre une émission apostrophe.
Absolument, et Bernard Pivot l'invitera à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il va devenir un petit peu une star de l'émission puisqu'il est invité non seulement donc pour les, à ce moment-là, 1975, c'est sans doute les essais sur l'histoire de la mort en Occident, mais ensuite il est invité pour L'homme devant la mort, il est ensuite invité pour les images de L'homme devant la mort, l'album qu'il a fait à la toute fin de sa vie, et ensuite il est également invité pour Un historien du dimanche. Donc voilà, à chaque fois, je dirais, il est très télégénique, il aime s'exprimer, il aime débattre, il a une passion de la discussion, et je dirais que pour Bernard Pivot, c'est le bon client. Car à chaque fois, il n'est pas du tout ennuyeux, ce n'est pas quelqu'un de conceptuel, il n'utilise pas un discours jargonnant, et il sait séduire, il sait plaire au public.
Alors, il affirme lui-même, « Je ne suis pas un historien de profession, l'histoire est pour moi une vocation et une passion. Il s'inscrit, je l'ai dit, dans la filiation de l'histoire des annales, une école née à Strasbourg qui a dépolitisé l'histoire, qui l'a aussi modernisée et confrontée aux réalités des sciences sociales. »
Absolument, il y a une double démarche par rapport à Philippe Ariès dans son choix hein, de cette histoire des annales. lui avait eu un parcours plutôt politisé jusque dans les années 30, adepte d'une histoire politique très bainvillienne. Et finalement, la lecture des annales de Sèvres et de Bock, il lit la collection pendant la période de l'occupation. Et pour lui, une révélation, une véritable découverte qui va lui permettre de faire un transfert de sa culture politique sur un objet historiographique dans son approche qui deviendra ce qu'il appellera lui d'abord, pardon, une histoire des structures et qu'effectivement ensuite on appellera l'histoire des mentalités, cette histoire des mentalités qu'ont mis en valeur, comme vous venez de le dire, Lucien Febvre et Marc Bloch. Et Philippe Ariès, véritablement dans cette affaire, ce qui est assez intéressant, comme je l'ai dit au début tout à l'heure, agit finalement en solo et n'est pas intégré à une équipe. Il défend cette histoire, il n'y a aucun intérêt, je dirais, institutionnel, il n'y a aucun renvoi d'ascenseur possible. C'est vraiment une passion, une découverte, une approche par l'histoire des mentalités.
Nous allons marquer une première pause musicale, Guillaume Gros, dans cette émission Passé-Présent. Je vous retrouve ensuite pour poursuivre cette passionnante conversation à propos de l'historien Philippe Ariès. C'est Michel Polnareff qui nous accompagne en chanson. Nous allons écouter l'un de ses tout premiers succès. C'était en 1966, « Love Me, Please Love Me ». Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité pour la première partie de cette émission est Guillaume Gros, qui publie les pages ressuscitées de Philippe Ariès aux éditions du CERF. Il y a un aspect de l'ouvrage qui m'a particulièrement intéressé, mais ça c'est peut-être le tropisme de l'enseignant, c'est l'histoire de l'éducation telle qu'elle est envisagée par Philippe Ariès, qui explique en particulier combien la contre-réforme, c'est-à-dire la réaction de l'Église catholique à la réforme protestante dans la seconde moitié du XVIe siècle et ensuite au XVIIe, a eu une incidence sur la scolarisation de la population en Europe.
Absolument. Alors, c'est les thèses de Philippe Ariès, effectivement, elles viennent de son livre « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime » qu'il publie en 1960. Et il montre dans cet ouvrage et dans cet entretien que je reprends dans « Page ressuscitée » l'enjeu que constitue cette période que vous désignez effectivement pour, je dirais, proposer un enseignement de plus en plus scolaire. Donc c'est à cette période-ci, en quelque sorte, que apparaissent finalement les canons de la scolarité telle que nous les connaîtrons. Et l'intérêt, je trouve, de ces entretiens, c'est de nous montrer à quel point, dans la durée, de façon presque séculaire, se sont mises en place un certain nombre de rituels éducatifs, une valorisation de la discipline, qui est une, je dirais, quelque chose d'absolument central dans notre enseignement français. C'est moins valable dans le modèle anglo-saxon. Donc c'est vrai que ces entretiens nous permettent de donner du sens, de la perspective à des choix ou des partis pris de notre système scolaire qui sont aujourd'hui de véritables cultures scolaires.
C'est aussi le moment où l'Église va prendre ses distances avec ce refus d'autoriser la pleine découverte du texte par ses fidèles.
Absolument. On assiste effectivement dans cette période à peut-être... Alors, c'est un paradoxe, hein, parce qu'on a à la fois plus de liberté, on a aussi en quelque sorte moins de liberté par rapport à ce que vous expliquez au texte. Après, il faut voir hein, effectivement que je dirais, le nombre d'élèves scolarisés reste extrêmement faible et concerne essentiellement, on va dire, la classe, alors l'aristocratie, une certaine bourgeoisie qui a les moyens de se payer des précepteurs et effectivement d'appliquer ces consignes.
Mais il explique aussi que ce que l'on appelle le préceptorat, que l'on croyait très diffusé dans la noblesse et la haute bourgeoisie, ne l'est pas tant que cela.
En effet, et ça fait partie effectivement des modèles que l'on avait en tête, cette idée de la Renaissance finalement, que le précepteur impose en quelque sorte sa façon de faire et que cette vision de l'éducation déteint sur les autres enfants d'une même classe d'âge. Et effectivement, ce modèle n'est pas aussi important. Finalement, on verra apparaître avec le modèle jésuite, hein, le collège jésuite, qui va devenir la structure, on va dire même, qui va sociabiliser finalement les enfants avec le modèle de l'internat et avec le modèle des enseignants des maîtres.
Philippe Ariès s'intéresse également à la question de l'apprentissage.
Alors l'apprentissage est au cœur de son modèle, ce que j'ai appelé son modèle interprétatif de l'enfance, puisque pour le résumer assez rapidement, il considère donc qu'au Moyen-Âge, l'apprentissage reste la règle et que l'enfant, très tôt, rentre dans la société des adultes. C'est-à-dire qu'on n'est pas adulte à 18, 19, 20, 21 ans, aujourd'hui encore davantage parfois, mais à partir de 12, 13, 14 ans.
Et l'adolescence n'est pas une période, je dirais, significativement marquée.
Absolument, avec les symptômes ou les stigmates de l'adolescence, cette période, effectivement, n'existe pas en tant que telle, vous avez entièrement raison. Et donc, avec la montée en puissance hein, de l'école et tout au moins du modèle tel que on l'a défini précédemment avec le modèle jésuite, avec l'idée que l'enfant doit aller davantage dans un cadre scolaire. Alors évidemment, il faut bien distinguer les classes populaires des classes bourgeoises ici, parce que ces évolutions, on les verra même jusque début XXe siècle par rapport à ce facteur-là. Eh bien, on assiste effectivement à c'est ce qu'il a appelé, lui, en reprenant les thèses de Foucault, un enfermement des enfants dans l'école, retardant de plus en plus tard l'âge et le passage dans le temps adulte, avec pas mal de conséquences psychologiques.
Dernière question, Guillaume Gros, parce que le temps nous est malheureusement compté. Pourriez-vous préciser à nos auditeurs la nature et le moment de votre rencontre avec Philippe Ariès ?
Alors, mon rencontre avec Philippe Ariès, elle y a à peu près 30 ans maintenant, le temps passe très vite, et c'est dans le cadre d'un travail universitaire autour de, la culture d'action française de Philippe Ariès, parce que pour moi, c'était un historien de gauche quand on me l'avait présenté à l'université, et j'ai voulu éclaircir ce phénomène, et progressivement, je suis rentré donc d'une thèse, on peut dire, d'histoire politique, j'ai basculé dans une œuvre qui est absolument foisonnante, et qui permet, puisque je l'approfondis dans le site que je développe depuis 2008 maintenant, qui permet de très 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 nombreuses entrées, pour lire et comprendre, appréhender la modernité. On a toujours tendance à se demander aujourd'hui que ce que l'on vit est quelque chose d'extraordinaire, or on s'aperçoit, en déroulant un petit peu les choses, que beaucoup de choses étaient déjà en place, voilà, sur des traditions de 2-3 siècles. Et Philippe Ariès a montré vraiment des courants importants, avec notamment la privatisation, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un aspect qui va à la fois avec la mort, à la fois avec l'enfant, la privatisation, donc la famille qui se replie dans la sphère privée, alors que pendant longtemps, tout était dans l'espace public. Donc tous ces éléments me permettent de, mesurer la modernité d'un historien qui, ne l'oublions pas, même si en France il a peut-être plus la notoriété de jadis, s'est traduit dans plus d'une trentaine de langues aujourd'hui, et on peut voir qu'en Perse récemment a été traduit dans Enfin la vie familiale. Donc cela montre la modernité de quelqu'un dont les thématiques, en quelque sorte, restent profondément ancrées dans notre quotidien, c'est-à-dire, par exemple, la question de la scolarisation, le rapport à l'enfance, le passage dans l'âge adulte, le rapport à la mort. La mort reste un sujet, on l'a vu au moment du Covid, très déstabilisant, qui a profondément affecté nos sociétés, parfois démunies, car de moins en moins ritualisées. Et les analyses d'Ariès permettent de prendre de la distance, de prendre du recul et de permettre d'appréhender un petit peu comme une antidote à la période que l'on peut vivre.
Guillaume Gros, merci beaucoup pour cette évocation de l'historien Philippe Ariès. Je rappelle le titre du livre que vous présentez aux éditions du CERF. Philippe Ariès, page ressuscitée. Cela nous permet de redécouvrir ou de découvrir pour certains la grandeur et la profondeur de la pensée de Philippe Ariès. Et je recommande la lecture de votre livre à nos auditeurs. Merci beaucoup. Nous allons passer à la seconde partie de cette émission passé-présent, plongée dans la période médiévale, le XIVe siècle, avec Paul de Cinetti et le secret de leur vie, la folle histoire d'amour de Saint Elzéar et la bienheureuse Delphine. C'est également publié aux éditions du CERF, mais cela sera après une pause musicale. Nous retrouvons Michel Polnareff en 1968 avec son album Le Bal des Las, peut-être son meilleur. Nous écoutons Amkalin. Thank you.
près du soleil, près des étoiles, pour le gîte, pour la nuit, et peut-être plus, pour la vie, ou peut-être moins. Patience, mon frère trouvera le seul pour compagnie, pour ami.
Je suis désolé, mais Paul de Cinetti n'est pas au rendez-vous pour l'entretien concernant son livre, par ailleurs tout à fait remarquable, « Le secret de leur vie, la folle histoire d'amour de Saint Elzéar et de la bienheureuse Delphine » paru aux éditions du Cerf. Nous diffuserons cet entretien peut-être dans une prochaine émission passé-présent. Nous allons donc conclure cette émission un peu courte, mais cela n'est pas de notre volonté. Merci à Thomas qui l'a réalisé brillamment comme d'ordinaire. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Michel Polnareff. Nous écoutons « On ira tous au paradis ». C'est une chanson extraite de l'album « Polna Révolution » de 1972. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains. On ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis, même moi. Crois en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. On y fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Crois en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira avec des critères. avec les païens, et même les chiens, et même les requins. On ira tous au paradis. Et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
Thank you.